Christophe Nijdam, bonjour.
Didier, bonjour.
Vous êtes analyste spécialiste du secteur bancaire chez Alpha Value. Alors, ce secteur bancaire qui, depuis cet été au moins, crée beaucoup de problèmes sur les marchés, c'est bien entendu au cœur des inquiétudes des investisseurs, savoir si les banques vont pouvoir supporter cette crise économique et financière, ces dettes souveraines, notamment côté grec, bien entendu. On en est où, je dirais, au mois d'octobre sur ce secteur bancaire? On a vu ces jours-ci Dexia devoir, certains disent, disparaître, se complètement changer de modèle et se faire refinancer. On en est où sur ce secteur au mois d'octobre 2011?
Au mois d'octobre 2011, par rapport à l'été, le secteur il a baissé en gros de 30% en bourse, entraînant d'ailleurs le marché boursier dans leur ensemble, mais à hauteur de 20%. Alors vous parliez du cas de Dexia. Bon, effectivement, Dexia illustre le gros problème auquel les banques sont confrontées de façon structurelle en Europe, c'est le problème de la liquidité. Donc Dexia, qui, une fois de plus, avait des ratios de solvabilité sensiblement supérieurs à ce que requiert la réglementation, tombe sur la liquidité, et ce, deux fois en l'espace de 3 ans.
Alors, quand on parle de liquidité, justement, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot? Parce qu'on en entend beaucoup parler, confond parfois liquidité et solvabilité, quand on dit que les banques ne peuvent pas, manquent de liquidité.
Bon, quand on dit qu'elles manquent de liquidité, ça veut dire qu'elles ont un déséquilibre structurel au niveau du bilan entre, d'une part, les dépôts qu'elles collectent des clientèles et, d'autre part, les prêts qu'elles consentent à l'économie, ainsi que les activités de marché, qui, elles, doivent être financées. Donc quand on parle de déséquilibre de liquidité, ça veut dire qu'une partie des banques, notamment les banques européennes, se financent trop à court terme sur les marchés, à la différence des financements des dépôts des clientèles qui sont plus stables.
On pourrait dire pour Dexia, c'est le bon exemple du moment, qu'il y a quelques mois, les stress tests ont été passés sans que personne ne trouve un problème particulier.
Oui, mais ça c'est quelque chose que nous disons depuis maintenant plus d'un an et demi chez Alpha Value. Le problème fondamental de ces stress tests, c'est qu'ils sont centrés donc sur la solvabilité et pas du tout sur la liquidité. On n'a pas stress tester la liquidité des banques européennes dans le cadre des tests qui ont été publiés le 15 juillet. Et du coup, on voit les problèmes aujourd'hui.
Du côté des dettes souveraines, on voit bien que le dossier grec, bien entendu, est au centre aujourd'hui des questions dans la zone euro avec des solutions qui vont venir. Alors au jour le jour, on verra ce qu'il en sort. Néanmoins, on peut dire d'ores et déjà que pour les banques, la facture va être plus salée que celle qu'on avait imaginée, ne serait-ce qu'au mois d'août.
Oui, il n'en demeure pas moins que cette facture, elle n'est pas si salée que cela. Alors, elle est plus salée, pourquoi? Parce qu'avec le plan grec du 21 juillet, finalement, on a battu en brèche dans ce plan grec l'intangibilité de la dette souveraine de la zone euro. Et donc, du coup, les marchés se sont dit, bon, puisque les banques peuvent éventuellement perdre de l'argent avec de la dette souveraine grecque, ils pourraient également en perdre avec les autres pays de la périphérie. Et à ce moment-là, il y a eu l'effet de contagion sur l'Italie, et c'est vrai qu'avec l'Italie, les sommes en jeu sont plus salées. Cela étant dit, nous avons regardé, donc, il y a une semaine, sur le secteur que nous suivons, petit rappel, 39 banques européennes cotées sur 13 pays. Et quand on regarde donc l'exposition des PIGS de cet univers, PIGS, Portugal, Irlande, Italie, Espagne et Grèce, leur exposition, c'est 484 milliards d'euros. Alors, nous avons regardé cela en relatif avec les capitaux propres de ces banques, c'est à peu près 43%. Ensuite, on a pris des décotes, puisque sur les marchés, on constate qu'il y a des décotes sur ces emprunts. On a pris une décote de 50% pour la Grèce, 25% pour l'Irlande, 25% pour le Portugal, 10% pour l'Espagne et 10% pour l'Italie. Et ceci nous donne, en termes de pertes potentielles latentes, puisque rien n'est avéré, après impôt, 44 milliards d'euros. Ce qui n'est que 4% des capitaux propres de notre univers et exprimé en capitaux propres réglementaires, en fameux Core Tier 1 Ratio, ça n'est que 51 points de base, 1,5%. Donc l'addition, oui, plus salée, mais pas si catastrophique que cela.
Est-ce que c'est pour ça que les banques, les grandes banques françaises par exemple, Société Générale ou BNP, veulent se montrer rassurantes, estiment qu'elles peuvent effectivement tenir le choc en quelque sorte, et elles le répètent, on va dire, à longueur de semaine?
Elles le répètent à longueur de semaine. Elles peuvent tenir le choc en termes de solvabilité, là où elles n'ont pas tenu le choc et là où finalement, quelque part, elles ont été un tout petit peu imprudente, c'est que depuis la crise de 2008, elles avaient eu 3 ans pour améliorer leur liquidité, ce qu'elles n'ont pas fait. Ce qu'elles n'ont pas fait, parce que les banques françaises, finalement, se sont dit, la crise des subprimes, on l'a traversée mieux que bien, donc du coup, pas besoin de remettre en cause notre modèle de banque universelle. Oui, peut-être, mais il y a quand même eu un choc Lehman, et du coup, depuis lors, on aurait pu en retirer la leçon, ça n'a pas été le cas.
De votre point de vue, ça veut dire que le modèle de ce modèle de banque universelle doit évoluer et on l'a présenté effectivement comme plus solide dans la période. Il doit évoluer comment ? Il y a des réformes, hein, on le sait, il y en a eu en Grande-Bretagne notamment. On doit séparer les activités banque de dépôt d'autres activités plus sur les marchés.
C'est une solution et c'est la solution la plus radicale. Néanmoins, avant d'en arriver là, il serait souhaitable, et c'est surtout faisable, c'est que les grandes banques françaises réduisent leurs activités de marché, notamment en dollars, parce que c'est là la source du déséquilibre qui fait qu'elles ont été extrêmement attaquées cet été.
Oui, on peut signaler que certaines ne trouvaient plus de dollars pour financer des investissements dans l'aéronautique, par exemple.
Oui, alors ça, sur l'aéronautique, je suis un peu surpris que certaines banques françaises aient dit « bon, ben, du coup, on ne fera plus de financement aéronautique visant indirectement Airbus ». Et dans une sorte de jeu de billard à quatre bandes, ces banques sont en train tout petit peu de faire peur aux politiques. Avant de réduire les financements à Airbus, on parle de 3 à 4 milliards de dollars, la variable d'ajustement, c'est les salles de marché. Et là, par exemple, quand on voit la cure d'amaigrissement qui a été annoncée par les trois grandes banques françaises qui, ensemble, se sont engagées d'ici fin 2012, justement pour résoudre ce problème de liquidité, de réduire le bilan de 400 milliards d'euros. Ce 400 milliards d'euros, ça représente à peu près 20% de leur bilan et à peu près 40% de leurs activités de marché. Et c'est tout à fait faisable qu'elles réduisent d'abord les activités de marché. Après, on pourra parler des financements à l'économie réelle.
En conclusion, les principaux risques aujourd'hui sur les banques, est-ce qu'ils sont exagérés par les marchés, par les investisseurs, ou est-ce que, effectivement, il y a encore des risques à venir? On parlait bien sûr de la Grèce en introduction, et il y a d'autres risques peut-être qu'on ne connaît pas.
Alors, vous savez, le concept de risque, c'est quelque chose de très relatif parce que lorsqu'il y a un emballement comme une crise de liquidité, un actif qui aujourd'hui est bon peut devenir demain mauvais au travers d'un squeeze de liquidité. Donc, je resterai prudent là-dessus. Néanmoins, nous avons quand même regardé dans notre univers. On s'est effectivement dit qu'avec le choc de cet été, le monde avait changé. Donc, en plus de ces 44 milliards d'euros sur les PIGS qui nous paraissent tout à fait supportables, on a regardé quel serait l'impact en matière du coût du risque sur notre univers d'un ralentissement économique européen par rapport à ce que l'on pensait avant l'été. Et là, je vous la fais courte, en augmentant le coût du risque, en le doublant sur 2012 et 2013, compte tenu de l'impact fiscal, à ce moment-là, cet impact serait de l'ordre de 93 milliards d'euros après impôts. Là aussi, tout à fait supportable. Mais le problème actuellement, c'est que les marchés sont devenus irrationnels parce que finalement, il y a beaucoup de tâtonnements au niveau des politiques. Et quand on est dans l'irrationalité, même si sur le plan fondamental, nous avons des arguments pour dire calmos, calmons-nous, les banques, c'est pas si catastrophique que cela, les marchés, eux, ils s'emballent et sur la liquidité, la crise est réelle.
Merci d'avoir fait le point avec nous sur ce secteur bancaire, Christophe Nijdam. On rappelle que vous êtes donc spécialiste des banques chez Alpha Value.
C'est moi qui vous remercie.